Merci, bonjour à tous. Il y a une question, oui, c'est en fait une forme interrogative parce que c'est comme ça que je souhaite le présenter. Il y a un certain nombre de choses qui sont écrites, mais c'est plutôt un pense-bête pour moi. Ce que j'aimerais, c'est vraiment vous présenter une situation de travail ordinaire. Parce que souvent, on attend des conférenciers qui apportent des réponses. Et finalement, je me rends compte que l'époque actuelle, ou la situation qu'on rencontre est plutôt, assez délicate. Et c'est pas la présentation donc, d'une architecture exemplaire qui aurait réponse à tout comme par magie, mais les questions que pose au fer architectural le milieu dans lequel il se fabrique. Alors je vais prendre simplement un exemple d'un projet qu'on a en ce moment, mais qui est à l'état de projet, qui est à l'agence. On va passer très très rapidement la présentation. C'est une crèche. Donc c'est ces petits équipements qui sont sans concours, qui coûtent environ 1 million d'euros, s'égrènent partout dans le Grand Paris sont assez importants dans le territoire communal, et qui sont des lieux quotidiens. Donc là, dans le cadre d'une opération en rue, voilà, la ville avait choisi ce terrain, adossé à un pignon. Il y avait ce bouquet d'arbres, et puis on nous a dit, faites ça, de toute manière, ça sera à vous de couper les arbres. Parce que vous voyez bien qu'on ne peut pas construire. On a été voir ce site, et puis assez rapidement, on s'est simplement dit que on a regardé l'état phytosanitaire de ces arbres, on s'est dit qu'on pouvait les garder. Donc on a bricolé quelque chose avec ces 3 unités de vie. C'est une petite crèche, c'est 3 fois 12, 36 berceaux. Et puis on a essayé de tourner autour. Il y avait encore des réseaux qui passaient dessous, parce qu'ils passaient dessous et à côté des arbres. Donc là, on nous a dit après, le relevé des réseaux, que ça n'allait pas, qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'infrastructure dans la ville. C'est qu'il y a EDF, IDF, c'est des gens, on ne peut pas discuter avec eux, il faut juste reculer d'un pas. Et parce que sinon, le projet, il prend 3 mois, 6 mois, 1 an, simplement pour qu'ils envoient le devis pour éventuellement dévoyer un câble. Donc, nous, on a fait un pas de côté, un pas en arrière, et on a accepté de retravailler en se disant qu'il fallait qu'on soit plus compact et que notre idée des arbres qui permettaient de faire couler, si vous voulez, le parc qu'il y a derrière dans la ville, eh bien, on allait le retravailler dans une autre figure. Alors, cette autre figure, on garde malgré tout les 2 grands arbres qui sont à l'entrée parce qu'ils sont incroyablement beaux. Et puis, on a retravaillé une géométrie beaucoup plus compacte, mais qui nous plaît malgré tout, qui est assez intéressante parce qu'elle peut développer des situations d'intériorité. Vous savez, une crèche, finalement, les petits-enfants, c'est là qu'ils vont s'éveiller aux heures du jour. Ils vont y passer, si on se met à... En référence à leur expérience de vie, c'est assez important le temps d'éveil. C'est pour eux, chaque journée, en proportion de ce qu'ils ont vécu, est très important. Vous savez, si on mesure les choses et l'existence comme ça. Et là, on s'est dit que avec ce plan cruciforme, avec ce jeu des arbres dans chaque fascio, avec ce jeu des parties pleines des entités, puis en marron, c'est la zone technique qui est adossée au pignon, qui prend moins la lumière, et puis avec ce jeu des vides qui allaient circuler entre des patios et... Et voilà, on a fait quelques petits schémas pour figurer ça. Eh bien, on avait un plan qui pouvait permettre de regarder tourner les heures et les saisons et de travailler une architecture qui soit simplement des petits lieux qui permettent d'aborder à travers une enceinte qu'on a imaginée comme une sorte de palissade de bambou, parfois ajourée, de voir tourner les heures du jour dans un espace un peu protégé. Donc on a produit cette image-là qui raconte cette palissade, qui raconte aussi des couleurs qu'on aimerait retravailler à partir de... Simplement, Goethe a écrit un traité des couleurs qui raconte que les couleurs s'échelonnent aussi, elles arrivent dans la nature au fil des saisons. Et on pensait que les arbres, les patios, leur orientation et leur saisonnalité pouvaient être l'occasion d'un travail qui sera plus fin que ce qui est représenté sur l'image où elles sont un peu criardes. Mais au contraire, pour essayer de fabriquer des ambiances du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et voir comment ces couleurs pouvaient être une sorte d'horloge chromatique, on pourrait dire, des saisons et des heures du jour. Alors voilà pour simplement la présentation du travail architectural, on pourrait dire, de l'agence. Mais ce n'est pas facile, ça. Je vous raconte, voyez, on peut raconter une histoire, ça fait que ça peut très bien le faire emballé comme ça par le plaisir de créer de la forme et des lieux habités. Mais la situation, rapidement, on pourrait dire que ça se passe dans une intensification des contradictions dans l'exercice du métier. Je ne veux pas vous déprimer le matin, mais on va juste, malgré tout, regarder quelle est la réalité des choses. Alors, on a entre 20, tout le monde le sait, mais entre 20 et 25% d'honoraires en moins depuis 15 ans. Il y a une sorte de dumping incroyable sur. Ça veut dire qu'on est un peu déshonoré sans honoraires et on ne sait pas si on respecte les prescriptions de la MIC, la mission interministérielle de la qualité des constructions publiques. On sait que forcément, on n'aura pas le contrat sur ces choses qui ne sont pas des concours, mais qui sont des offres, où finalement, l'économie prime et on est vraiment serré. Après, on nous demande pour faire ça. Si vous voulez, les injonctions du développement durable, c'est des compétences techniques de plus en plus spécialisées, des structures fluides, électricité, environnementalistes, paysagistes, acousticiens, pour des budgets d'études de plus en plus serrés. Donc, vous voyez, il y a un paradoxe. Il faut une armée mexicaine pour fabriquer un projet, finalement, dont il n'y a pas de budget pour l'étudier. Ou en tout cas, dont il ne faut pas qu'on présente de budget, parce que sinon, on va choisir celui qui va être le moins cher possible. Et puis, la demande. Comment régler la plus grande complexité réglementaire dans laquelle on nous déverse, l'électrique, sanitaire, urbaine, sécuritaire, financière, thermique, qui influence évidemment le devenir des bâtiments. Est-ce que ces bâtiments, c'est simplement un feuilleté réglementaire? Mais ça, le paradoxe, c'est sur fond, si vous voulez, de concurrence entre des singularités et d'attente d'une identité urbaine et architecturale légère. Vous voyez, on attend qu'on règle tout ça et en plus, on ait un plus de légèreté, quoi, d'un peu de fun. Mais non, ça va bien. On est résilient dans la souffrance. Enfin, je blague un peu, mais vous voyez un peu l'état dans lequel on aborde ces choses-là. Et puis, après, c'est un paradoxe au sein de la maîtrise d'ouvrage. Sur ces petites opérations-là, on a des maîtrises d'ouvrage qui sont dominées par une lecture exclusivement technique. Et puis, on a des maîtrises d'ouvrage, le maire ou l'adjoint, qui est uniquement souvent obsédé lorsqu'on le voit en une réunion par sa stratégie de communiquer et l'image qui va lui permettre de le faire. Donc on a à la fois technicien et politique qui nous envoient des injonctions très paradoxales. Et puis l'échelle particulière de ces petites opérations où nous, on a une agence de taille artisanale finalement et on pense que ces lieux du quotidien peuvent avoir une importance. Et évidemment, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de visibilité ou d'exigence architecturale, mais finalement, c'est ça qui fabrique la qualité des milieux, des lieux et des communes dans lesquelles on intervient. Et pour conclure là-dessus, on peut se dire simplement qu'on a une certaine solitude culturelle dans ce milieu de techniciens. Quand on est en réunion, on ne parle jamais d'architecture. On envoie les bureaux d'études, ils présentent tout ça, ils discutent entre eux, puis nous, on fait passer les choses, et on continue, et donc, c'est cette sorte de solitude culturelle qu'on rencontre face à tout ça. Alors, résultat, enfin, comment dire, vous voyez que tout ça, on se rend compte qu'on voit bien les enjeux, mais il y a une sorte d'intensification immobilisante des paradoxes, pourrait-on dire, et que l'architecture, on est vraiment les mains dans le cambouis, ça permet de mesurer de façon très concrète la somme des blocages, finalement, que la société rencontre dans son projet de transformation. On est difficulté de prendre en compte la complexité, difficulté de sortir de logique parcellaire, d'un mode de pensée fragmenté, parce que les techniciens, c'est chacun, ils peuvent très, très, très bien parler, enfin, je ne sais pas quoi, de la vanne qu'il y a à la sortie du tuyau de chauffage. Quoi. C'est formidable, mais ils sont incapables de voir le monde qu'il y a autour. Et difficulté de décider entre toutes ces injonctions contradictoires. Donc, en fait, ce qu'on rencontre, c'est assez étrange, c'est une sorte d'intensification de ces paradoxes, ça construit une sorte d'impuissance généralisée, auquel, évidemment, vous comprenez bien, on n'a pas envie de se résoudre, mais qui est partagé, le aquabonisme. Donc, et finalement, nous, on est, cette sorte de liberté de ton qu'on a irrite énormément, parce qu'on a toujours un pied ou quelques neurones en dehors de cette sorte d'impuissance que des réunions qui durent des heures, où on parle de... je sais pas quoi, des barreaux qui avaient de la hauteur entre les barreaux pour éviter que des enfants regardent à travers les bambous, par exemple, dans cette... ou aillent se coincer les doigts, c'est quoi. On pourrait dire que cette sorte d'impuissance-là, elle est étrangement en phase avec l'émergence des questions environnementales. Il y a une sorte de dystopie, il y a quelque chose de pas très connecté. C'est comme, on pourrait dire un exemple qui illustre ça, c'est comme l'arrivée des données sur la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique a été concomitante, pardon, il y a un S, de la mode des 4x4 urbains. Vous voyez, c'est quoi cette sorte de grand écart comme ça entre... C'est quand même la situation, on pourrait dire, sociétale ou le milieu professionnel dans lequel on travaille est pétri de ces contradictions. Alors, deux pages qui posent des questions de façon un petit peu, qui vont un peu plus là-dedans. Est-ce qu'il y a encore besoin d'architecture, finalement? Vous voyez, est-ce que tout ça, est-ce qu'on n'est pas les derniers des Mohicans à vouloir, malgré tout, s'attacher à des choses? Alors, parce qu'on peut considérer est-ce que l'architecture n'a pas perdu son... son rôle finalement, si on considère le peu d'engouement qu'elle suscite hein, pour ces petits projets-là, le peu de reconnaissance qu'on lui porte, le peu d'honneur qu'on lui fait, on regarde des honoraires, vous voyez, des honoraires, le même mot, comme si finalement ce qu'on essaie de raconter dans la relation au quotidien avec les gens avec qui on travaille, l'architecture n'est plus le protagoniste de la ville et de l'époque. En fait, c'est comme si ce qui se fabrique dans cette sorte d'urbain n'est plus, comment dire, définissable comme un territoire de boîtes architecturales, vous voyez, mais comme un territoire illimité, caractérisé par un flux de marchandises, d'informations, d'obligations, de personnes, de contraintes réglementaires, de connexions. Donc, on peut se dire, et j'emprunte ces réflexions à Andrea Brunzi, dans un article qu'il a écrit récemment, à l'espace vide dans lequel elle s'exprimait, s'est substitué à une sorte d'espace rempli. La société est ainsi devenue un aquarium tiède, un monde indoor, un milieu épais dans lequel l'architecture a perdu sa capacité à définir le cadre historique. Elle a perdu son rôle, sa crédibilité, sa présence, et les architectures starisées, vous voyez, qui ne sont-elles pas que les dernières tentatives de casser cette indifférence généralisée. Vous voyez, comme s'il y avait une sorte de boursouflure finale face à un désintérêt complet pour ceux dont l'architecture pourrait avoir la charge. Alors, voilà, juste pour expliquer encore ça, ce mouvement de globalisation, c'est sa dimension universelle, se présente, vous voyez, comme une sorte de pensée, de projet, de pensée faible, libérale, ouverte à tous ces planctons, cet aquarium, à toutes les pollutions, les flux moléculaires de cet aquarium indoor, de la société, une sorte de pensée faible. Alors qu'il est aussi, et peut-être surtout, ce qu'il faut le voir, justement, dans ces difficultés, une sorte de pensée de la grande puissance, qui désensibilise, qui démobilise, et par ses stratégies d'occupation présentielle, on est toujours occupé par quelque chose, vous voyez, et par le jeu des paradoxes et des crises imbriquées qui s'autorisent. Voilà, situation peut-être un peu pessimiste, mais il faut regarder malgré tout les choses en face avant de voir comment on peut y réagir. Donc là-dedans, il y a une grande difficulté, me semble-t-il, ce que je voulais raconter, à prendre conscience des enjeux environnementaux. Parce que la crise écologique nécessite de prendre conscience de données globales qui ne sont pas immédiatement sensibles pour chacun. C'est là-dessus qu'on va essayer de regarder maintenant comment les choses peuvent s'articuler. Cette conscience des interactions, finalement, exige de chacun un travail actif. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est de faire le lien entre ce que l'on sait, ce que l'on sent, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Et c'est un travail de connexion qui doit s'opérer finalement à l'intérieur de chacun et qui rencontre de nombreux freins. On rencontre des gens, voilà, ces paradoxes et contradictions sont autour de la table, mais comment chacun d'entre nous, on essaye de mettre des liens entre ces différentes choses. Alors, ces freins, c'est parler de ce qui est pénible. C'est vrai que la dégradation des indicateurs environnementaux est anxiogène. Ça, il faut pas le... Et donc, c'est pénible. On a plutôt envie de... Je vais regarder un western, quoi. Enfin, je ne sais pas, vous voyez, mais de ne pas regarder ces choses-là. Les interactions ne sont pas facilement perceptibles. Et on se heurte, on pourrait dire, malgré tout, il y a un travail à faire aux limites des capacités cognitives de l'être humain. Parce que toutefois, parfois, pour... puisqu'il faut faire ces interrelations-là entre ces différentes choses, il faut apprendre, parfois il faut sentir, parfois il faut douter, tout ça n'est pas forcément évident. Et en plus, on se rend compte qu'il n'est pas facile, parce qu'on n'est pas formé à ça, surtout pas les ingénieurs, pourrait-on dire, puisque les ingénieurs, ils ont, finalement, les écoles d'ingénieurs, ils ont été choisis pour répondre à un problème qu'on leur a posé, une équation sophistiquée, mais pas pour inventer quelque chose et poser un problème, et répondre à un problème. Et puis deuxième chose, dans les grandes écoles d'ingénieurs, ils sont choisis pour résoudre des équations tout seuls à une table, mais pas pour travailler en commun. Donc il y a quand même deux handicaps qui fabriquent leur... Enfin, ils sont très performants à régler des questions techniques, mais vous voyez, ça fabrique quand même deux handicaps qui fait qu'ils n'étaient pas cophones de se confronter pour eux à plusieurs niveaux de connaissances, plusieurs types de raisons, pourrait-on dire. Alors, l'architecture, si on la désire encore, finalement, enfin... On essaye de faire, dans la modestie de notre agence en banlieue, là, c'est évidemment la volonté de prendre la mesure et d'agir sur les transformations les plus concrètes. Parce qu'un bâtiment, c'est très concret. Hein. C'est finalement, ça va être monté de main d'homme, c'est forcément toujours un peu un prototype, il y a un contexte. Et donc, ces transformations les plus concrètes, essayer de les aborder dans la complexité de leur interrelation. Ce qu'on pense, c'est évidemment... C'est quand on parle de projet, ça dure pendant un an, vous voyez, on rencontre des gens très différents, hein, évidemment, des puricultrice, l'adjointe au maire, des gars d'EDF, au bureau d'études. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans, qu'on est au cœur de cette, finalement, rétroaction permanente entre l'intention et les faits. Vous voyez, le processus de projet, c'est peut-être ça. On est à une sorte de souplesse, comme ça, d'interaction entre intention et fait. Et même si, derrière tout ça, on a une exigence d'unité, malgré tout, une mise en lien. Et c'est cette exigence de cohérence, finalement, qu'on essaie de porter, parce que cohérer, c'est tenir ensemble. Et évidemment, il y a une sorte de cohérence minimum, mais statique, physique, constructive, enfin tectonique dans l'architecture. Donc cette exigence-là, comme architecte, on se doit de la porter dans les figures comme dans les narrations. Et on voit bien qu'on rentre souvent en délicatesse avec cette pensée fragmentée, finalement, qui domine la fabrique urbaine. Alors, deux pages pour terminer. Au-delà des difficultés de ce concept de conception, hein, puisque c'est plutôt ça dont j'ai parlé, il y a aussi, évidemment, les bonheurs de la réception de l'architecture. Parce qu'on est tous, plus souvent, et en tout cas même sans compétences architecturales particulières, on est tous dans la réception de ce monde construit aujourd'hui. Et donc l'architecture, c'est aussi ça, la somme des expériences et des saveurs qu'offrent ces agencements urbains les plus divers, et des chefs-d'œuvre les plus simples aux plus saisissants. Et là, évidemment, il y a une myriade d'occasions de s'émerveiller, de se sentir accueilli et stimulé, quelle que soit finalement les énoncés qu'il peut y avoir autour des projets. J'aime bien cette phrase de Livio Bacchini qui parle assez bien de cette rencontre avec l'architecture. Il dit, dans un ouvrage qu'il a collaboré, il dit « Cette magie entre l'œil qui croit voir et le cerveau qui croit comprendre ». Il raconte assez bien ce moment entre doute, affect, d'interrogation, si vous voulez, sur qu'est-ce qui se passe lorsque, à travers l'architecture, on est projeté au contact des choses, comme à l'extérieur de soi. Alors, évidemment, on pourrait dire que les architectes, on a la charge de faire que ça continue à exister, à être énoncé, à être partagé, et puis peut-être à être reproduit à travers les bâtiments et les agencements. Et parce que cette expérience architecturale, elle est particulièrement immersive, et c'est là où on va voir qu'elle peut nous amener à une relation particulière à l'environnement. Elle est multidimensionnelle, elle promeut ce qu'on pourrait appeler l'horizon sensible du monde édifié. Et ce qui nous semble important, c'est que c'est toujours un corps à corps avec le monde construit. Et ce corps à corps, il est l'imbrication de plusieurs choses. C'est une sensorialité, c'est des perceptions, c'est du symbolique, c'est évidemment un engagement cognitif. Et on pense qu'à travers tout ça, évidemment, se fabrique à la fois une relation sensible à l'environnement, mais aussi, on pourrait dire, une relation plus mature, vous voyez, dans les interrelations entre ces différents moments, on pourrait dire, de l'aventure expérientielle de l'architecture. Et on voit bien que ces difficultés que nous rencontrons sont emblématiques de ces bouleversements de la relation à l'environnement. On fabrique avec des outils d'hier quelque chose qu'on pressent déjà de l'aujourd'hui. Et donc, évidemment, c'est aussi, on pourrait dire, au-delà du travail de l'architecte, des bouleversements de notre culture de l'installation. Alors, en conclusion, on pourrait dire que les savoirs et les compétences d'installation que l'architecture formule, parce qu'ils s'ancrent dans plusieurs types de raisons, dans plusieurs modes d'existence, dans plusieurs registres de vérité, alors, c'est mon souhait, ou en tout cas ce que j'aimerais bien, c'est qu'il, on pourrait dire, porte une énergie et une compétence de régulation face à ces logiques parcellisées, et qui, souhaitons-le, puisse être attendue comme une contribution précieuse aux arts et techniques de l'aménagement.